Les médias pour moi c'est des chroniqueurs, des animateurs.
Derrière il y a plein de choses, des techniciens, les micros.
Interclasse.
Ça part de ma génération,
j'ai ma propre opinion, je pense que je réfléchis.
Il a fallu les attentats contre Charlie Hebdo et l'hypercachère et le meurtre des policiers pour que l'on découvre que des élèves remettent en cause les faits en relayant une autre lecture du monde grâce à la grande vitalité des théories du complot sur le web. Cette influence néfaste d'Internet, cette désinformation, ce sont d'abord des enseignants qui l'ont constaté, des sociologues également. Ils ont tiré la sonnette d'alarme pendant des années sans être entendus. Nous, journalistes, nous le constatons également sur le terrain. Une partie de toute une génération construit son rapport au monde sur des bases fondées sur le mensonge et la manipulation. On sait très bien que pour de nombreux collégiens et lycéens, les principales sources d'information sont les réseaux sociaux. Et sur ces réseaux, le pire côtoie le meilleur. Face à ce flux continuel d'informations, difficile pour un adolescent de ne pas se laisser séduire par des thèses plus ou moins fantaisistes pour comprendre le réel. Les élèves naviguent ainsi entre le vrai et le faux, sans savoir discerner l'un de l'autre. Et on ne peut pas leur en faire le reproche puisque personne ne leur a expliqué comment décrypter une information. Conséquence, leurs opinions sont davantage basées sur des croyances que sur des faits. Alors, depuis 3 ans, Interclasse, le programme d'éducation aux médias et à l'information de France Inter, propose pendant une année à des élèves issus des quartiers populaires de s'initier aux pratiques journalistiques et de découvrir le reportage. Et chaque été, nous partageons avec vous, chers auditeurs, leurs impressions et nous écoutons leur travail. Bonjour à tous, vous écoutez France Inter, bienvenue dans Interclasse.
Interclasse, saison 3.
C'est parti !
Les ados font de la radio comme des pros.
Sur France Inter.
Monsieur, excusez-moi, est-ce qu'on peut vous poser des questions ?
No, I speak France, but I speak English. You want English ?
Ok. How old are you?
Quel âge avez-vous?
22, yes.
J'ai 22 ans.
How do you feel here?
Comment vous sentez-vous ici?
I'm feeling too much problems and I don't have place to sleep.
J'ai beaucoup de problèmes.
Place to sit.
Et j'ai pas d'endroit où dormir.
Place
to
eat something.
S'asseoir. Endroit pour manger quelque chose.
Too much. It's very hard life.
La vie est trop dure.
Extrait de l'un des reportages que nous allons écouter dans cette émission, nous avons demandé cette année à chaque classe de faire des interviews en s'inspirant de l'un des mots de la devise républicaine. Et cet après-midi, nous vous proposons d'écouter le travail des élèves de seconde 6 du lycée Jean-Jacques Rousseau de Sarcelles. Et dans ce studio, j'accueille toute la classe. Autour de la table, Naomi, Payal, Mourad, Mohamed Ali et Mélissa. Ensemble, nous allons débattre de la société, de votre avenir, de vos rêves. Également devant les micros, Emilia et Sohaïba pour présenter les reportages qu'ils ont réalisés avec leurs camarades. Autour de nous, dans le studio, les professeurs de Sarcelles, Aurélie Jollet, professeure de lettres, Marie-Emeline Brenet, professeure de sciences économiques et sociales, et puis ceux qui vous ont accompagné toute l'année, Christine Siméon, journaliste au service web de France Inter, Emmanuel Leclerc, journaliste et reporter au service police-justice de la rédaction de France Inter, Antoine Chao, producteur de l'émission Comme un bruit qui court, et Élian Delacôte, étudiant en journalisme à l'IPJ Paris-Dauphine.
Liberté,
égalité,
fraternité.
Liberté, égalité, fraternité.
Liberté, égalité, fraternité. Pour illustrer la devise à travers leur reportage, les élèves n'ont pas manqué d'inspiration. Au menu de cet après-midi, des reportages donc très riches et éclectiques. Nous irons à la Maison des journalistes dans le 15e arrondissement de Paris, à la rencontre de reporters étrangers réfugiés en France. Nous évoquerons l'affaire Maracante, l'histoire d'une erreur judiciaire. Puis un tout autre décor, Lilian Thuram nous guidera à travers le musée Eugène Delacroix. Enfin, nous irons Porte de la Chapelle, dialoguer avec des migrants mineurs. Mais avant d'écouter vos reportages, direction Sarcelles pour découvrir votre ville.
Nous venons de Sarcelles, une ville exceptionnelle, une ville dans laquelle nous sommes tous fraternels.
Nous venons d'un lycée entouré de cités, d'une grande mixité qui pour nous est une fierté.
Sarcelles, en banlieue parisienne, c'est une ville ancienne. On entend toujours la même rengaine que c'est une ville de haine.
Chaque matin, on prend le 268, les yeux rivés sur le paysage, afin de contempler les mirages. Nous arrivons au lycée, les yeux émerveillés.
Merci pour ce portrait de Sarcelles. Mohamed Ali, quelles sont les valeurs de ton quartier?
Les valeurs de mon quartier, moi, ce que je retrouve le plus, c'est la fraternité.
parce que la fraternité, c'est quelque chose qu'on ressent vraiment beaucoup à Sarcelles. Dans tous les quartiers, il y a plus de 100 origines, il y a toutes les communautés, il y a des gens de toutes les couleurs. Mais on s'entend vraiment bien depuis des années, il n'y a pas de problème.
Alors justement, près de 70% des jeunes de moins de 18 ans qui résident à Sarcelles sont d'origine étrangère, c'est-à-dire avec au moins un parent immigré, et pour plus de 60% de ces parents, eh bien, ils sont nés hors d'Europe. Quel regard vous portez sur cette diversité ?
En fait, quand on est par exemple dans une classe, on est tous d'origine différente et on ne fait pas de différence entre nous. On est tous nés en France, la majorité, et jamais on s'est senti comme si on n'est pas dans notre pays ou autre. On se sent bien et il n'y a pas de discrimination entre nous.
Et comment vous voyez Paris de Sarcelles ?
Paris de Sarcelles, y a beaucoup de différences parce qu'ici, quand... Et tu dois chercher pour voir plusieurs origines. Il y a moins de diversité culturelle à Paris. À Paris aussi, il y a des choses qui changent. Par exemple, quand on était venu pour interviewer Lilian Thuram, mon groupe, on avait noté directement le style vestimentaire parisien.
Alors, par exemple, décris-nous le style vestimentaire sarcellois et ensuite celui de Paris. Pour qu'on comprenne bien cette différence.
Moi, directement, ce que j'avais aperçu, c'était que le style parisien était assez chargé, il y avait un manteau, une veste, etc. Alors que nous, à Sarcelles, on peut mettre une petite veste et c'est bon. Mmh. Après, c'est des styles qu'on n'est pas du tout habitués. Les pantalons un peu larges, etc. Mais c'est un bon style, je trouve. Quand même.
Payal, quelle vision tu portes sur Paris ? Est-ce que ça te paraît une capitale qui est un petit peu difficile à comprendre ou à atteindre ?
Oui, parfois je trouve que c'est difficile parce que nous en Sarcelles, on est un peu différent comme en médaillé à Jeep sur le point de vestimentaire. Donc ça peut être très différent au point de langage aussi, je trouve un peu. Donc c'est un peu difficile surtout quand on y va à Paris et qu'on n'arrive pas à se rassembler. Français.
Tout ce que vous dites là, ça me fait penser aux interventions de Claudia Tagbo. Vous vous souvenez, elle était invitée le 20 mars dernier aux États généraux d'Interclasse et elle a évoqué au micro de Patricia Martin sa première rencontre avec des élèves de Sarcelles, donc votre ville. Ces élèves venaient du collège Jean Lursa précisément et je vous propose de réécouter un extrait de son intervention.
La première fois que je les ai vus, déjà très impressionnés parce que quand vous avez une salle, je joue à la Gaîté, l'époque où ils sont venus, et on me dit tu auras un groupe d'élèves, donc tout de suite on se dit ah, groupe d'élèves, quel collège ? Ah oui, ils viennent de Sarcelles. Oh, d'accord. Ok. Alors faut les maîtriser, hein. Vous les dispatchez. Alors après c'est tout de suite l'animatrice qui a pris le dessus parce que moi j'ai été animatrice de colo et tout ça, donc ça a été bien séparé. En fractionnant, voilà, on divise les énergies.
Ils sont moins dangereux s'ils ne sont pas les uns avec les autres.
Voilà, tout de suite, isolez-les. Voilà. Donc, on les a un peu séparés et tout ça. Le spectacle s'est très bien passé. Ils étaient tellement imprégnés du spectacle qu'il y en a qui ont intervenu très fortement. J'ai dit, mais non, c'est pas la télévision, tais-toi. Ce qu'il faut enchaîner, là. Donc, à un moment donné, il faut se dire la vérité. C'est aussi mon parcours. Avant d'arriver là, c'est bien, les lumières, ça fait briller, on nous voit à la télé, mais ça, c'est aussi mon parcours. Je suis arrivée en banlieue, à ce qu'on appelle, les gens peut-être connaissent, Sevran-Bedotte, le Gros Sol, le Anne-sous-Bois, tout ça. Donc, je viens de là, j'étais à l'école à Saint-Denis. Oui, hein, tout d'un coup, ça fait moins, hein. Ouais, je sais. Donc, j'avais leur histoire devant moi, et du coup, la connexion, elle s'est faite assez rapidement. Je me suis vue en eux, et c'était un très, très beau cadeau.
C'était l'humoriste Claudia Tagbo, venue participer aux États généraux d'Interclasse. Elle a grandi dans un quartier populaire et reconnaît avec beaucoup de sincérité qu'elle avait un a priori sur la venue des élèves d'Interclasse de Sarcelles, en plus, hein, donc la même ville que vous. Donc un a priori, quand elle a appris donc qu'ils venaient assister à son spectacle. Comment vous expliquez ce type de réaction, Mourad ?
Les élèves, déjà, ils ont de l'énergie à dépenser. Ça veut dire qu'ils savaient qu'ils allaient être turbulents, ça allait être dur de s'en occuper. Et en plus, sur Sarcelles, il y a plein de clichés. Il y a plein de clichés sur les élèves. Ils parlent mal, ils respectent pas les règles. Je pense qu'elle s'est dit que ça allait être dur.
Et Mohamed Ali ?
Très gros cliché, vraiment. Parce que nous, les élèves de Sarcelles, on est bien, on est sage, on est intelligent, on est normal, on est comme tous les autres.
Nous sommes donc avec les secondes 6 du lycée Jean-Jacques Rousseau de Sarcelles. Et sur France Inter, on aime le dialogue, le débat et on aime aussi la musique. Chris. Christine and the Queen, qu'on appelle désormais Chris, Dem, dis-moi.
Je me fais la nique, les mains dans le blouson. Tout mon corps me pique, c'est la salaison. Quand ils l'ont de leurs bras, elles rient de bonté. Tic-tac, ça semble écrit sur le papier. Ma tristesse infectera ma mâchoire. Plus je convoite et moins je suis belle à voir. C'est comme un merle, la fille que tu crois retenir. T'appuies au hasard pour la faire jouir. Que faire de l'énergie que je perds quand je te mais ça m'en déçut. Dans le noyau des villes, ils m'interpellent depuis leur cachure. T'es qui de la monnaie pas défendue. Revenu au matin pleine de sueur. Mon corps menti entre les pas du passeur. Accroupi, laissé toute l'âme tragique. T'es qui pour me traiter toi. Que faire.
C'était Dem, dis-moi de Chris.
Interclasse.
On est déter.
Oh my god.
Sur France Inter.
Liberté, égalité et fraternité, c'est le thème des reportages réalisés pendant la troisième saison d'Interclasse, le programme d'éducation aux médias et à l'information de France Inter. Et nous sommes avec Emilia, lycéenne à Sarcelles. Bonjour Emilia.
Bonjour.
Quel mot de la devise républicaine as-tu choisi avec ton groupe pour faire ton reportage ?
La liberté.
La liberté, et quel est l'angle de votre reportage ?
La liberté de la presse et la liberté d'expression.
Et pour ça, donc, vous êtes allé dans le 15e arrondissement, à la Maison des journalistes. Depuis 2002, cette maison accueille des reporters exilés. Ils sont originaires d'Afrique, d'Amérique du Sud, d'Asie, du Moyen-Orient ou encore d'Europe du Sud et de l'Ouest. Et dans leur pays d'origine, leur liberté d'expression est totalement remise en cause. La Maison des journalistes leur donne donc le moyen de continuer à s'exprimer dans un environnement sécurisé.
Nous sommes partis à la maison du journaliste, rencontrer du journaliste en exil.
Vous venez d'où ?
On vient de Sarcelles, du lycée Jean-Jacques Rousseau.
D'accord.
Cet endroit il est unique parce qu'il héberge une douzaine de journalistes qui viennent de différents pays.
Et vous allez remarquer sur chaque porte, c'est en fait le partenaire qui finance la chambre.
Nous avons visité le lieu d'habitation et de travail.
Bah, en général, les chambres se ressemblent. Il y a une petite table, un petit bureau et un petit lit.
Et si mon bureau est là ?
tu peux regarder.
Nous avons interviewé 3 journalistes en exil, 2 Marocains et un journaliste qui a demandé de ne pas révéler son nom ni son origine.
Mon fils doit cacher leur identité. Ils ne parlent pas sur moi, ils n'ont jamais dit qu'ils sont mon fils.
La plupart des journalistes de son pays sont muselés ou emprisonnés.
C'est très dangereux parce que je suis condamné, je suis cherché maintenant. Aussi, le régime a bloqué mon compte de banque. Ma femme n'utilise pas mon argent là. Complète oppression sur les personnes qui opposent ça. Ça peut être politicien, académique, docteur, juge, même journaliste. C'est pareil.
Hicham Mansouri est fondateur de l'association marocaine des journalistes d'investigation. Il a été arrêté et condamné pour des délits de droit commun, accusation qu'il réfute. Il a fini par fuir son pays.
Par rapport au Maroc, il y a des pressions soit sur les journalistes, soit sur les rédactions, c'est-à-dire les entreprises médiatiques. Par rapport aux journalistes, c'est souvent des attaques qui ne sont pas directes, c'est-à-dire la diffamation. On peut écrire sur vous des choses qui ne sont pas vraies. Détournement d'argent, même trafic de drogue, apologie au terrorisme. Ça s'est passé en tout cas surtout depuis 2013. Par rapport aux journaux, c'est soit le contrôle via l'argent, via le financement, la publicité ou des lois. Donc des lois qui ciblent aujourd'hui surtout la presse en ligne, la presse électronique parce que c'est la plus indépendante au Maroc.
Nous avons appris que la liberté d'expression n'est pas la même partout et ceux qui s'y opposent sont punis, y compris dans les pays qui peuvent paraître sympathiques aux touristes.
Nous avons rencontré un autre journaliste marocain, Samad Iyash, qui nous a raconté comment le royaume du Maroc a essayé de formater les esprits.
Dans les années 80, le roi Hassan II, le père du roi Mohamed VI, ça veut dire l'ancien roi, il a travaillé sur les cerveaux. Ça veut dire qu'il a baissé le niveau d'enseignement, fermé un institut de sociologie et de philosophie, le grand institut en Afrique. C'était un espace où les étudiants construisent l'esprit critique. Il a ajouté des heures de l'éducation islamique au lieu de la philosophie au lycée. Donc là, on voit très bien que c'est une politique pour avoir des gens qui disent jamais non. Et là, on est arrivé à un point, à un moment, où il y a beaucoup de personnes qui vraiment... ne disent rien par rapport à leur situation, ni si économique, ni sociale.
La conclusion de notre reportage, c'est que les journalistes ne sont pas toujours ceux qui disent n'importe quoi, mais c'est ceux qui veulent dire la vérité aux autres peuples.
Voilà, si vous voulez savoir plus, visitez maisondesjournalistes.org.
Merci Nelcy, Victoria, Emilia, Madison, Lindsay, Payal, Katia pour ce reportage à la Maison des journalistes réalisé avec Christine Siméon, journaliste au service web de la rédaction de France Inter. Alors je me tourne vers Payal. Payal, c'est quoi pour toi la liberté d'expression ?
La liberté d'expression, c'est quelque chose de très important. Alors déjà, je voudrais commencer par la démocratie. Donc ça concerne le peuple, c'est le pouvoir du peuple. Donc c'est important que tout le monde exprime ce qu'il pense. Parce que c'est comme ça qu'on vit ensemble et c'est important, voilà.
Donc c'est une liberté fondamentale.
Exactement.
Est-ce que tu penses que tout le monde peut s'exprimer librement en France ?
Je pense que oui. Par rapport aux autres pays, je pense qu'on a énormément d'avantages. On peut s'exprimer de différentes façons, la danse, théâtre, je pense que c'est super.
Interclasse, c'est l'émission où vous pouvez vous exprimer et puis vous faites aussi la programmation musicale. Charlotte, vous avez choisi des morceaux en classe et vous avez voté. Alors qu'est-ce qu'on écoute ?
Oui, en classe, on a voté et on a choisi Rose de Nino.
C'est parti.
J'ai tout pris quand tu dormais. Personne m'a vu rentrer. Allongé sur le canapé. Je suis dans la maison hantée. Le réseau est démantelé. La nourrice est affolée. L'enquête sera menée et des prénoms sont donnés. Croquer le fruit défendu, assis sous le pommier. J'ai promis d'être le premier qui t'a triché pour gagner. Je les entends plus quand ça tire, c'est nous les plus armés. J'ai pas reculé devant l'ennemi, j'ai toujours fait ce qu'il fallait. Le sol s'allumera comme dans Militim. Si t'es la bonne, je te présente ma daronne. Un max de papier et je me tire d'ici. Je me vois pas mourir en star du hip-hop. J'ai trop mal à la vie, mais j'ai pas l'antidote. Je recrache pas haine derrière l'antipop. Mon argent ça reconvertit en propre. Investir dans un commerce qui rapporte. Je suis dans le check-car, je ne souris pas. À part quand un vrai frère ressort de dos.
plus de clients, plus de liards. Même sous commission, on ne fait pas de pause. Ma chérie voudrait que je lui offre une rose, rose. Mais tout ce que j'ai à donner, c'est une dose. J'suis dans le tchèque, souris pas. À part quand un vrai frère ressort de tôle. Plus de clients, plus de liards. Même sous commission, on ne fait pas de pause. Ma chérie voudrait que je lui offre une rose, rose. Mais tout ce que j'ai à donner, c'est une dose. Ne crois pas que tout est agréable. Lenny, c'est la voix du peuple. Une cagoule, un pétard, une mécane suffiront pour refroidir tes potos. Il a fallu se débrouiller. Derrière moi, je n'avais zéro grand frère. Dans une chambre d'hôtel, j'ai un dessoulé. C'est un peu frais, donc je la fume en perse. Maman me disait, dans la moussica, y'a pas de futur. Mais les disques d'or accrochés sur le mur, faut que je la rassure. Avant-hier je doutais, hier je doutais, aujourd'hui c'est sûr. On a fait le plus dur, la guerre nous laissera des blessures. La guerre nous laissera des blessures, il a fallu la faire pour obtenir la paix. C'est sur la cachette qu'on appuie, mon équipe ne tolère pas les manques de respect. Tu dégaines, on dégaine, on est prêt, ça te ferait, et tu vois qu'on est vrai. Vous verrez, vous paierez tout ce que vous me devez, il n'y a plus de délai. J'suis dans le tiercard, je ne souris pas, à part quand un vrai frère ressort de tôle. Plus de clients, plus de liards, même sous commission on ne fait pas de pause. Ma chérie voudrait que je lui offre une rose, rose. Mais tout ce que j'ai à donner c'est une dose. J'suis dans le tiercard, je souris pas, à part quand un vrai frère ressort de tôle. Plus de clients, plus de liards, même sous commission on ne fait pas de pause. Ma chérie voudrait que je lui offre une rose. Mais tout ce que j'ai à donner, c'est une dose.
C'était le choix des secondes 6 du lycée Jean-Jacques Rousseau de Sarcelles, Rose de Nino.
France Inter.
Interclass. Les ados au micro.
Interclass.
Les ados au fond de la radio. Comme des pros.
Direction le musée Eugène Delacroix dans le 6e arrondissement de Paris. Visite guidée avec le footballeur Lilian Thuram. Comment lutter contre les racismes à travers l'art? C'était le thème de sa déambulation avec les élèves du lycée Jean-Jacques Rousseau de Sarcelles. L'occasion de découvrir le peintre et de débattre de fraternité et de solidarité avec l'ancien champion du monde de football.
Visiter un musée avec un guide hors de commun, pas question de rater ça. Ce jour-là, nous étions tous au rendez-vous qu'il nous avait fixé au musée Eugène Delacroix, à Paris, dans le 6e arrondissement. Notre guide un peu spécial est un footballeur international français. Il détient le record de sélection en équipe de France masculine. Et avec l'équipe de France, justement, il a remporté la Coupe du Monde en 1998. Aujourd'hui, il veut nous faire découvrir les œuvres orientalistes de Delacroix, car il a toujours peint l'étranger avec respect à une époque où il y avait beaucoup de racisme. Lilian Thuram fait connaissance avec nous.
Qui êtes-vous ?
Charlotte.
Thérèse.
Amaria.
Mohamed.
Louisa. Chérine.
Nous sommes des élèves du lycée Jean-Jacques Rousseau.
Sarcelles ?
Oui.
Non, c'est pas vrai.
Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que la société française,
ouais,
elle a accepté aux valeurs de la fraternité aujourd'hui ?
Ben aujourd'hui, c'est mieux. Et donc, c'est à vous, vos générations d'aujourd'hui et du futur, à continuer ce travail.
Lilian Thuram nous a fait réaliser que la fraternité, en fait, c'est dépasser les limites de la société. Si on aime une femme qui n'est pas de la même religion, il ne faut pas se condamner à ce que la société elle dit, il faut écouter son cœur. Au musée, il y avait des gens qui avaient 3 ans, il y avait des gens qui avaient 60 ans, mais ils écoutaient la même personne et ils étaient motivés, ils étaient là pour la même chose.
Tous ces tableaux autour de nous racontent une histoire. Le Djaou et le Pacha, l'histoire d'un homme qui n'est pas oriental, mais qui veut épouser une femme orientale. Est-ce qu'on accepte l'étranger ? Parce que chacun de nous, nous sommes quelquefois étrangers dans un groupe.
Comment il expliquait les tableaux ? On a tout de suite compris. En fait, il avait un bon langage pour tout le monde, les petits comme pour les grands. J'ai bien aimé pour une fois un musée.
Lilian Thuram à plusieurs reprises a dit qu'il faut se sentir chez soi, etc. Quoi que ce soit l'endroit, il faut se sentir à la maison.
Excusez-moi. Il y a un jeune garçon qui est rentré ici en disant que c'était pas pour lui. Il a des choses à dire. Vas-y.
Sur ce tableau, je vois que le roi, celui qui a la puissance, il voit qu'il est en train de se faire attaquer. Donc il se dit que si moi je coule, bah, eux aussi vont couler. Et pour ça, il tue son peuple. Parce que la peur de perdre son pouvoir, ça lui rend fou et il tue les autres.
C'est ça. Mais voilà. Donc tu vois bien que... Non, mais c'est important que chacun de vous, vous preniez le temps d'observer les choses et que vous ne dites pas, ça, c'est pas pour moi. C'est pour toi. Enfin, tu pars pas avec, parce que...
Je suis tout étourdie de ce que j'ai vu. Je suis dans ce moment comme un homme qui rêve et qui voit des choses qu'il craint de voir lui échapper. De la Croix, Carnet d'Orient, 1832.
Tout au long de sa vie et son travail, il est toujours revenu vers l'Orient. Le voyage, c'est aussi aller à la rencontre de l'autre, qui peut être tout près de toi. Et le voyage commence peut-être par partir de Sarcelles, venir dans le 6e, se dire « c'est pas mon lieu », repartir de ce musée, se dire effectivement « ben le 6e, ben j'y suis bien aussi, c'est ma place, j'ai le droit à ça aussi ». Et vous savez quoi ? Je suis partout à ma place.
Lilian Thuram nous a montré qu'il n'y avait pas de différence, qu'on était tous unis.
On était tous égaux aussi.
Voilà. Et aussi qu'on est étrangers nulle part.
La fraternité, c'est le lien qu'on a entre nous, qu'on est tous solidaires.
Et on est fraternels partout. Donc nous, là, on est des frères et sœurs.
On n'est pas restreint à notre ville, toute la France nous appartient.
Au musée avec Lilian Thuram, cette balade sonore nous a été proposée par Mohamed Ali, Thérèse, Louisa, Amaria, Charlotte, Édouard et Chérine, avec l'aide d'Elian Delacôte, étudiant en journalisme à l'IPJ Paris-Dauphine. Mohamed Ali, c'était comment cette rencontre avec Lilian Thuram ?
Cette rencontre, c'était comme un enseignement pour nous. Il nous a appris à comprendre le message à travers l'art, à travers la peinture. Il nous a montré que même derrière une peinture, il y a le message de fraternité et on l'a compris. La visite a été vraiment intéressante. C'est la première fois où je me suis intéressé à un musée. Sinon, je m'ennuie.
Pourquoi ?
Parce que les guides, ils nous expliquent pas assez. Ils nous disent alors ça, c'est le peintre et ça a été en cette année, ça a été peint. La peinture, elle est pas intéressante quand ils nous la présentent, alors que Lilian Thuram nous donnait des exemples, etc. Et on était dedans.
Payal, les élèves qui ont été au musée avec Lilian Thuram ont parlé du thème de la fraternité. Est-ce que le dispositif interclasse a créé de la fraternité entre vous, de la solidarité ou pourquoi pas de l'amitié ?
Oui, ça a augmenté la fraternité, la solidarité notamment. Voilà.
Est-ce que vous vous êtes respectés les uns les autres lors des échanges de points de vue, même si vous ne pensiez pas tous la même chose ?
Oui. Si l'autre personne n'était pas d'accord avec mes opinions, on essayait de l'expliquer pourquoi et voilà, on essayait de comparer.
C'est donc difficile d'accepter le point de vue de l'autre lorsqu'il diffère du sien.
Parfois oui, c'est difficile, mais on arrive à trouver un lien après, donc ça marche.
Mourad ?
En fait, ça dépend si le sujet nous tient à cœur. Enfin, si nous tient à cœur, on n'a pas envie que d'avoir tort. Mais après, on essaye d'argumenter. On regarde qui a le plus d'arguments, s'ils sont vrais ou s'ils sont faux, et on accepte.
Alors ça, c'est vraiment un propos d'une grande maturité, que de comprendre qu'il faut argumenter, accepter le point de vue d'autrui. Est-ce que Interclasse, ça t'a notamment aidé à accepter des points de vue qui sont différents des tiens ?
Oui, absolument.
Les élèves ont débattu donc sur des sujets de société, mais également pour savoir ce qui allait être diffusé comme titre de musique dans l'émission. Et au platine, Chérine, qu'est-ce que vous avez choisi maintenant comme morceau de musique avec ta classe ?
On a choisi Bad Boy de Marwa Loud.
On n'a pas bad boy, t'as que des bad girls, t'es qu'un bad boy. Le but d'une vie c'est de faire de la monnaie, c'est pas ton équipe et ton racolé. Toutes tes copines, ouais, on les connaît. À force de zoner, ouais, on les a rôdées. Je suis abattu, je perds le fil. Et t'as pas un euro, fais pas de deal. Et t'as pas un kilo, fais pas le dealer. Je prends pas ça au sérieux, ouais, ça fait dealer. La grosse dandine.
tu peux pas changer de forfait, t'ont abandonné. Donc tu mets tes gants, tu mets ton bonnet. Et tu cours, continue de zoner. Donc tu sors, t'es beau, t'es bien accompagné, ouais, donc c'est bon, c'est bon. Elle a vu tout ton zéyo. À partir de là, ouais, tu te casses les dents.
Ouais, tu te casses les dents,
tu dépasses les bancs. Tout ça parce que la fameuse est bonne, est bonne. Mais toi, tu la frictionnes, les consos s'additionnent. À la fin, c'est qui paye, bah c'est pas elle qui donne. Moi, je voulais m'en aller, et ce, depuis, ouais, tant d'années. J'essaie de faire le vide, souvent sourire, de faire le tri.
C'était Bad Boy de Marwa Loul.
France Inter. Interclasse.
Troisième reportage de l'émission, nous sommes avec Mélissa. Mélissa, quel mot de la devise républicaine as-tu choisi d'illustrer avec ton groupe ?
On a choisi l'égalité, mais plutôt en nous intéressant à l'inégalité dans la justice.
Et vous avez quel angle ?
On a voulu parler de l'affaire Mara Kanté.
L'affaire Mara Kanté, alors c'était il y a un peu plus de 10 ans, lors des émeutes de Villiers-le-Bel qui ont suivi la mort de 2 adolescents renversés par une voiture de police. Les policiers avaient d'abord nié les faits et certains quartiers se sont alors embrasés. Lors des nuits qui ont suivi, plusieurs dizaines de policiers ont été blessés, y compris avec des armes à feu. Et parmi les suspects interpellés, un jeune footballeur prometteur, Mara Kanté. Il se retrouve durant près de 3 ans en prison, jusqu'à être acquitté lors de son procès aux assises, faute de preuves suffisantes. Plus qu'une erreur judiciaire, le dossier ressemble surtout à la construction d'un coupable idéal.
Là, on était totalement dans le préjugé. Dès que j'ai mis mon pied dans le commissariat, que pour eux, c'est bon. Ils ont le tireur et les carottes, elles sont cuites pour moi.
Mara Kanté évoque ce jour de juillet 2008, placé en garde à vue au commissariat. Il est incarcéré au bout de 48 heures, soupçonné d'avoir tiré sur un policier lors des soirées d'émeutes de Villiers-le-Bel.
Mara Kanté clame son innocence, mais un témoignage l'accable. Ce témoin, il le connaît très bien.
On avait joué ensemble quand on était gamin. Je le connais très très bien, il habitait juste en face de chez moi. C'est bidon. Mais voilà, c'est juste qu'il est, ici d'un quartier, je suis ici d'un autre quartier, on s'apprécie pas trop. Donc du coup, quand on se rencontrait, c'était souvent un clash, on était souvent amené à se battre. Après, je vous dis les choses telles quelles, hein. Je l'ai souvent foutu des raclés et ça m'a pas surpris, bon, qu'un mec comme ça me mette en cause.
Mais après ce premier témoignage qu'il envoie en détention provisoire, un autre témoignage à charge est recueilli par les policiers enquêteurs.
C'est, comme le raconte Mara Kanté, son ticket pour un long séjour à la maison d'arrêt et un procès aux assises.
Et c'est 2 faux témoignages parce que il y a une autre personne après au cours de l'enquête qui est venue, qui prétendait que moi je lui avais fait des confessions en lui disant que j'avais tiré sur les policiers, mais il s'avère que c'était faux parce qu'elle avait tué quelqu'un directement sur la route, involontairement pardon, et cette personne-là voulait récupérer son permis et sortir rapidement. Elle a fait comprendre qu'elle avait entendu parler des émeutiers de Villiers-le-Bel et que les gens lui avaient dit certaines choses. Il s'avère que ce mec-là, il a raconté un ramassé de conneries qui a été carrément validé par la juge jusqu'à notre procès. C'est là qu'il a fait une interview en disant « Voilà, j'ai raconté que des bêtises, j'ai passé un marché avec les policiers et j'ai accusé des gens dont je connais pas. »
Passer un marché avec les policiers. L'accusation de Mara Kanté fait écho aux autres polémiques mettant en cause certains policiers, principalement lors des émeutes de Clichy-sous-Bois en 2005, puis de Villiers-le-Bel en 2007.
2 affaires que connaît très bien Maître Jean-Pierre Mignard, l'un des avocats des familles des adolescents décédés dans le Val-d'Oise à Villiers-le-Bel, où l'attitude des enquêteurs avait surpris et choqué ce grand avocat parisien.
On est devant un juge d'instruction qui ne croit que les policiers. Mais qui ne croit que les policiers. Ah ça, tout ce que nous pouvions dire, tout ce que les familles pouvaient dire. Il y a quand même des choses sur ce qu'on nous dit qui ne sont pas normales. Et donc on va devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et elle nous donne raison. Elle dit non, on ne croit pas à la thèse. Et le président de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Versailles, donc un magistrat important, dit « c'est maintenant moi qui vais reprendre l'affaire ». Finalement, le policier est renvoyé devant le tribunal correctionnel de Versailles. Voilà, on a un principe de république qui dit « tout le monde est égal en droit ». Et je crois que c'est sincère. Et puis il y a une réalité sociale qui fait que entre ce que l'on dit et ce qui peut être fait, eh bien, ça ne fonctionne pas toujours.
Remis en liberté, Mara Kanté n'a jamais cherché à poursuivre celles et ceux qui l'ont envoyé en prison sur la base de deux témoins plus que suspects.
Au final, on se dit, ça sert à quoi tout ça? On est sorti, on est passé à autre chose, donc fin. Quand même je l'aurais poursuivi, moi-même, ça ne m'aurait pas spécialement intéressé, si ce n'est qu'il m'aurait donné de l'argent. Mais le décideur, c'est la juge.
Dans cette histoire, le parquet de Pontoise n'a jamais décidé non plus de poursuivre les faux témoins, ni ceux qui les auraient poussés éventuellement à faire de faux témoignages.
L'affaire Mara Kanté, un reportage de Mélissa, Mourad, Enzo, Iliane, Barbara, Cérine et Imed, avec l'aide d'Emmanuel Leclerc, journaliste au service police-justice de la rédaction de France Inter. Est-ce que certains d'entre vous se sont sentis révoltés en découvrant cette histoire ? Mourad.
Tout à fait, parce que on la connaissait pas tous. Il y a une seule personne du groupe qui la connaissait. Et quand elle nous l'a raconté, on n'était pas révoltés, mais on était surtout choqués. Parce que 3 ans de prison à tort, c'est quand même grave. En plus, il avait une carrière de footballeur. Ça a gâché sa carrière. Ça lui a gâché sa vie.
Mélissa, tu as été choquée de découvrir cette histoire ?
Oui, moi personnellement, cette histoire, je ne la connaissais pas. Et révoltée, c'est quand même un grand mot, mais ça m'a quand même touchée en fait. C'est-à-dire que je ne trouvais pas ça juste qu'il se fasse juger alors qu'il n'y avait clairement pas de preuves. En plus, un témoignage anonyme, on ne sait même pas qui c'est, donc avoir 2 ans de prison pour quelque chose auquel on n'a aucune source, on ne sait rien, c'est vraiment injuste.
Alors, c'est un reportage qui n'a pas été simple à réaliser, donc bravo pour votre implication. Qu'est-ce que vous avez trouvé le plus difficile à faire, Mélissa ?
Le plus difficile, c'est quand on a interviewé l'avocat, maître Jean-Pierre Mignard. Parce qu'on lui a posé des questions, il nous répondait aux questions, mais avec des termes assez compliqués, et il développait beaucoup ses réponses. Et du coup, c'était un peu compliqué à comprendre.
Et puis ensuite aussi peut-être pour le montage.
Pour le montage aussi, oui, ça c'était compliqué, sachant qu'il parle quand même beaucoup en détaillant, mais ça nous a quand même aidé à comprendre l'histoire, malgré que c'était compliqué un petit peu.
Et rencontrer Mara Kanté, ça devait être quand même hyper intéressant d'avoir ce témoignage, ce face-à-face. Mourad ?
Oui, c'était impressionnant surtout.
Pourquoi c'était impressionnant ?
D'entendre à voix vive quelqu'un nous raconter son histoire, c'était touchant. Et on ressentait la douleur qu'elle a subie dans l'interview.
Merci pour tous ces témoignages. Avant d'écouter votre dernier reportage, After the Storm de Kali Uchi. Whatever goes around eventually comes back to you. So you gotta be careful, baby, and look both ways before you cross my mind.
Don't you
Raft of a Storm de Kaliushi, un choix qui fait beaucoup rire les élèves, un choix ultra sensuel de Jean-Baptiste Audibert, programmateur musical à France Inter.
France Inter.
Vive France Inter, vive Interclasse.
C'était grave bien et si j'aurais une autre possibilité de refaire cette expérience, je la refais.
Interclasse.
Vous écoutez Interclasse, c'est la troisième saison du programme d'éducation aux médias et à l'information de France Inter. Une trentaine de journalistes, producteurs et d'étudiants en journalisme sont allés pendant une année dans les classes pour travailler avec les élèves et leur faire découvrir les coulisses du métier de journaliste. Collégiens et lycéens ont réalisé une vingtaine de reportages inspirés de la devise républicaine. Et nous sommes maintenant avec Sohaïba. Bonjour Sohaïba.
Bonjour.
Tu nous présentes donc le dernier reportage. Quel mot de la devise républicaine as-tu choisi avec ton groupe ?
La liberté.
La liberté. Et vous avez rencontré qui ?
Des mineurs étrangers. On les a rencontrés en mars à la porte de la chapelle.
C'est un reportage que vous avez réalisé avec l'aide d'Antoine Chao, producteur de l'émission « Comme un bruit qui court ».
Bonjour, je m'appelle Kylian, je suis en classe de seconde, 6. Au lycée Jean-Jacques Rousseau à Sarcelles. C'est quoi une information ?
J'en sais rien.
Alors c'est interclasse.
Comment tu t'informes ?
Je m'informe pas.
On est à Sarcelles.
C'est quoi le journalisme ?
Je sais pas trop.
Eh ben on a bien fait de venir.
C'est l'atelier interclasse sur France Inter.
Bonjour, je m'appelle Soïva Chabaz. Je suis venue du lycée Jean-Jacques Rousseau à Sarcelles.
Moi je m'appelle Naomi Langa Bombo. Je suis au lycée Jean-Jacques Rousseau à Sarcelles et j'ai 15 ans. Aujourd'hui, on est parti interviewer des migrants et des gens de l'association collectif Wilson. Et on s'intéresse à la liberté de circuler et aux conditions d'accueil des migrants en France.
Bonjour.
Là, on est à Porte de la Chapelle, 56 boulevard Ney. Il y a des migrants qui sont en train de prendre leur petit déjeuner que le collectif Wilson ont préparé pour eux. Depuis quand tu étais en France ?
Moi, j'ai fait 2 mois en France.
Vous avez quel âge ?
J'ai entre 16 et 17 ans. Quoi.
D'où vous venez ?
De Guinée.
Qu'est-ce que vous voulez faire en France, en fait ?
Non, moi, je souhaitais étudier, mais c'est pas le cas que je trouve ici, quoi. Ouais.
Pour faire quel métier ?
Là, j'ai pas choisi d'abord, pour n'être. Je ne veux pas me mentir, quoi. C'est ça.
Que pensez-vous de la France ?
La France, non, la France n'est pas bien. Là, on ne va pas vous mentir. Ce que vous voyez ici, c'est la France seulement que vous allez voir ici. Déjà, dormir au dehors, vous faisiez votre demande de protection. La France, on dort au dehors, ça tout.
Merci.
Bonjour, enchantée. Anne-Marie Bredin. Ça va ?
Oui. Oui.
Ben, on va monter dans le local. Alors, il n'est pas très beau, mais il est pratique ce local. Et je ne sais pas si vous avez des questions. Là, on est en train de préparer le petit-déj avec des invendus boulangerie. Et à côté, on est en train de chauffer l'eau pour les boissons.
On travaille sur la devise française liberté, égalité, fraternité. Est-ce que vous trouvez qu'il y a un problème par rapport à cette devise ?
Oui, il y a un problème. Liberté, égalité, fraternité, je ne vois pas la liberté aujourd'hui de circuler, même dans cette rue. Il y a des policiers qui empêchent des personnes parfois, par période, d'arriver pour prendre le petit déjeuner. Les gens ne sont pas libres non plus de circuler d'une manière plus large, en dehors de Paris, de circuler au niveau des frontières.
C'est-à-dire qu'en France, la liberté de circuler, elle n'existe pas ?
Non. On ne peut pas arrêter la volonté des personnes ou le besoin d'arriver en Europe. Les gens viendront d'une manière ou d'une autre. Ou alors on va faire un mur qui entoure la totalité du pays, ce qui est fou. Je trouve ça scandaleux. C'est qu'il y a un discours politique qui dit on va apprendre la liberté, l'égalité, la fraternité, sauf que dans les faits, ce n'est pas le cas du tout. Donc c'est un double discours.
Monsieur, excusez-moi, est-ce qu'on peut vous poser des questions ?
Non, je parle français, mais je parle anglais. Vous voulez anglais ?
Ok.
Quel âge avez-vous ?
22, yes.
J'ai 22 ans.
How do you feel here ?
Comment vous sentez-vous ici ?
I'm feeling too much problems and I don't have place to.
J'ai beaucoup de problèmes.
Place to sit.
Et j'ai pas d'endroit où dormir.
Place
to
eat something.
S'asseoir. Endroit pour manger quelque chose.
Too much. It's very hard life.
La vie est trop dure.
Ça a été dur aussi pour nous de voir cette réalité sur le terrain et aussi de faire ce travail au plus près de la réalité. En parlant en direct avec ces personnes, cela nous a permis le temps d'un reportage de comprendre leurs difficultés.
La liberté de circuler en France quand on est migrant et mineur, un reportage de Naomi, Karine, Olivia, Myrna, Swahiba, Kylian et Ludric, avec l'aide d'Antoine Chao, producteur de l'émission « Comme un bruit qui court ». Donc vous êtes allé à la rencontre de jeunes qui ont pratiquement votre âge, ils sont déracinés, il y avait aussi la barrière de la langue. Qu'est-ce qui était le plus difficile lors de ces interviews, Karine ?
Ce qui était le plus difficile, en fait, c'est la langue aussi. J'ai vu que pas mal de personnes ne parlaient pas la même langue que nous, la compréhension.
Et comment vous avez fait pour aller au-delà de cette difficulté ?
Bah, on a essayé de comprendre et on a essayé de parler la plupart du temps l'anglais.
Oui, et ça a été ?
Oui, ça va.
Qu'est-ce que ça t'a appris sur toi, ce reportage ?
Moi, en général, je me plains un peu, mais quand je les ai vus, on n'a pas les mêmes conditions de vie et je me trouve chanceuse.
Est-ce que tu es fière d'avoir fait ce reportage ?
Oui, oui, bien sûr, ça m'a appris plein de choses.
Qu'est-ce que ça t'a appris ? Si tu devais retenir deux, trois choses que t'as appris ce reportage.
Bah, quand j'ai vu des gens dehors, je me disais, je comprenais pas trop pourquoi ils étaient là. Et quand on est parti, j'ai trouvé les réponses à mes questions.
Mohamed Ali ?
Moi, je trouve que la France, elle doit mieux les accueillir parce que la France, c'est un pays qui parle beaucoup à l'ONU, qui parle d'humanité. Mais quand on voit ces migrants, on voit dans quel état ils sont, bah, ça fait de la peine. Et vraiment, c'est le contraire de ce qu'on dit. Il y avait des mineurs qui étaient là, qui étaient très très jeunes, et qui étaient là depuis des mois, et vraiment, ils étaient désespérés, et ça, faut pas.
Qu'est-ce que ce reportage, qu'est-ce que cette réalité, elle dit de la devise républicaine ?
Bah, ça montre qu'il n'y a pas d'égalité, pas de liberté parce qu'ils sont restreints, et fraternité aussi, non. Enfin, un peu de fraternité parce qu'il y avait des gens qui étaient volontaires et qui aidaient, mais... Si l'État il dit qu'il y a la fraternité dans le pays, bah faut agir aussi.
En tant que jeune, quand vous voyez ça, est-ce que ça vous donne envie de vous impliquer pour aider justement dans votre quartier ou ailleurs, Karine ?
Oui, bien sûr, parce que surtout après le reportage, quand on voit leurs conditions de vie, etc., ça nous donne envie de transmettre cette information à plus de personnes et aussi d'être bénévole de façon à au moins donner quelque chose.
Est-ce que tu penses que les jeunes s'impliquent suffisamment dans la société ?
Non, pas pour l'instant, pas trop, mais de plus en plus, grâce aux projets comme Interclass, on s'implique de plus en plus.
Mohamed Ali, tu penses que pour changer la société, il faut davantage faire confiance à une action sur le terrain de la part des citoyens ou bien à l'action politique ?
C'est l'action sur le terrain qui a forcé l'action politique. Donc il faut que nous, en tant que citoyens, en tant qu'humains, on agit, on va les aider et on manifeste pour leurs droits. Et ça pourrait changer beaucoup de choses. Si on compte sur les politiciens, il n'y aura rien. Parce que les politiciens ils disent des choses, mais pour l'instant, ils n'ont rien fait. Et en plus, nous aussi, à Sarcelles, par exemple, on est plusieurs personnes, il y a plusieurs origines, etc. Et il faut savoir qu'au début, eux aussi sont venus, ils étaient immigrés. Et bah, nous, on doit ressentir cette douleur et on doit les aider. Et les politiciens... on leur fait confiance, ils font rien, alors que nous, quand on y va, on ressent. Et après, c'est à nous de manifester, de montrer aux politiciens qu'il faut agir maintenant.
Mohamed Ali, quels sont tes rêves ?
Mes rêves ? Ils sont grands. Je voudrais devenir PDG d'une grande entreprise. Je voudrais même devenir politicien.
Homme politique ?
Homme politique, président.
Président de la République ?
Président de la République.
Édouard, c'est quoi ton rêve ?
Moi, je voudrais partir dans mon pays d'origine, investir et pouvoir devenir président du Cameroun.
Tu es né où ?
Je suis né en France, mais mes parents sont d'origine camerounaise.
Et tu voudrais retourner aider ton pays ?
Ouais, parce qu'il y a trop de misère là-bas. C'est chaud.
Karine, quel est ton rêve ?
J'ai des rêves, mais c'est un peu vague. Du coup, c'est pas vraiment précis. Mais sauf que quand je serai plus grande, déjà, je ferai des études. Et de façon que mon métier serve à quelqu'un.
Et est-ce que pour la société dans laquelle tu vis, tu as un rêve ? Ou un espoir ?
Mon espoir, c'est de façon que moi, quand je suis grande, il n'y a pas des misères telles que... de façon que les migrants ne soient pas respectés en France. Quand même, la France, c'est où je suis née. Et je ne veux pas que des migrants disent que non, la France, c'est pas bien ou quoi que ce soit. Il faut changer cette attitude.
Charlotte, quel est ton rêve ?
qu'il y a plus de solidarité, qu'il y a moins de racisme surtout. Parce que ce soit en France ou en Amérique ou en Afrique, il y a beaucoup de maltraitance.
Est-ce que tu es victime toi-même de racisme ?
Non, parce que je vis dans une ville pleine de mixité, du coup on ne connaît pas trop ça. Non.
Est-ce que lorsque tu viens à Paris, tu le ressens ce racisme ?
Bah, comme je suis une fille, non, mais les garçons ils doivent le ressentir.
Mohamed Ali ?
Moi personnellement je ne le ressens pas parce que comme j'avais dit, à Paris on vient souvent pour des sorties pédagogiques et autres, donc on nous accueille vraiment d'un bon cœur et non, j'ai jamais ressenti ça.
Interclass.
Je me tourne vers les journalistes et producteurs de France Inter. Christine Siméon, votre bilan de l'année ?
Oh, mon bilan de l'année.
On a deux heures.
Bah, non, alors on va faire en plus court, mais déjà, enfin le premier bilan à la fin d'une année comme ça, c'est toujours juste la satisfaction, le bonheur et l'énergie que ça procure que d'avoir eu ces échanges avec des jeunes, avoir constaté leur ouverture d'esprit, leur curiosité, leur lucidité sur beaucoup de choses et sur le monde autour d'eux. C'est déjà une satisfaction. C'est la satisfaction de la transmission en fait. Après, c'est vrai que je me dis que le travail est plus que jamais nécessaire, que ces exercices-là sont plus que jamais nécessaires à répéter et à multiplier au maximum.
Emmanuel Leclerc, journaliste au service police-justice de France Inter. L'originalité d'Interclass, c'est de durer toute l'année scolaire. Pourquoi c'est si important ce temps long auprès des élèves ?
Ah, mais moi, je crois qu'effectivement, comme cela, à plusieurs reprises, revenir avec eux, leur faire découvrir ce qu'est, Christine le disait, ce qu'est le journalisme, savoir fabriquer une information avec toutes les contraintes que cela suppose, pour qu'après, ils puissent essayer de reproduire, évidemment, pas ce qu'on fait, mais au moins avoir une petite graine plantée comme ça, vis-à-vis de l'information publique. Et puis, moi, j'ai beaucoup de souvenirs là, et notamment de voir des lycéens rencontrer un grand avocat parisien, en l'occurrence Jean-Pierre Mignard, les voir autour de cette table de réunion dans ce cabinet du centre de Paris et pouvoir lui poser des questions pendant plus d'une heure. Et on a raconté, est venu par exemple au lycée, pareil, a passé plus d'une heure avec les lycéens pour répondre à leurs questions qui ne sont pas les mêmes que celles qu'il a eues pendant des années avec les journalistes. Et ça a été vraiment un enrichissement commun, que ce soit les lycéens puis moi aussi de les entendre poser des questions.
Eh bien, merci à vous pour votre implication et votre engagement et merci à tous les élèves pour cette année d'Interclass. Merci également à leurs enseignantes, Aurélie Jollet et Marie-Emeline Brenet. On salue aussi nos partenaires, le Clémy, la Fondation de France, Netia et l'Institut pratique du journalisme Paris Dauphine. À la réalisation de cette émission, la pétillante Sonia Leglen. À ses côtés, elle s'occupe de la production, l'adorable Fanny Léonore Crouzet. Et à la technique, Youtou Diego Aclopez. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même énergie, même sourire. Et d'ici là...
Aime-la.